Et lors des cérémonies d'hommage, le 7 octobre dernier à Paris, Sharon Calderon, la belle-sœur d'Ofer Calderon, toujours otage à Gaza, était présente. On a eu l'occasion de l'interviewer et on voulait également vous faire partager sur Radio Judaïka le discours très applaudi ce soir-là de Sophia Aram, humoriste et comédienne française, qui malgré les critiques et la haine qu'elle essuie, a défendu Israël publiquement et ce, depuis le 7 octobre 2023. On écoute ce reportage.
Je m'appelle Sharon Calderon, je suis la belle-sœur d'Ofer Calderon et je suis accompagnée de Nissan, le seul frère d'Ofer, mon mari. Nous sommes tous deux originaires d'Israël, nous avons été invités à cet événement. Nous sommes heureux, même si c'est un mot difficile à prononcer aujourd'hui, nous sommes contents d'être ici.
Comment s'est déroulée votre rencontre avec le président Macron après ce qu'il a dit ce week-end?
La rencontre avec le président Macron a été très agréable. Nous avons décidé ensemble que ce serait une réunion privée et que tout ce qui serait dit resterait dans la salle. Nous étions heureux de le rencontrer. Nous avons eu une conversation agréable avec lui et sa femme Brigitte qui était avec nous. C'était émouvant et il ne nous reste plus maintenant qu'à prier.
Avez-vous eu le sentiment que la France fait vraiment quelque chose pour aider à faire libérer les otages?
Il est très difficile de faire quelque chose. La situation est très difficile, mais la France est obligée de nous aider et d'être avec nous, avec d'autres pays. Nous pensons que si chaque pays fait un peu, nous réussirons. Je suis heureux que la France soit à nos côtés dans ce combat. Je suis heureuse que le président Macron ait exprimé son désir d'aider et nous espérons que bientôt l'enfer dans lequel nous vivrons depuis le 7 octobre dernier prendra fin.
Et que tout le monde revienne, c'est le plus important. 101 citoyens doivent rentrer chez eux parce qu'ils ne sont que des citoyens. Ce ne sont pas des soldats. Ils ont été enlevés chez eux un matin, la plupart d'entre eux en pyjama et en sous-vêtements, pieds nus.
Est-ce que c'est difficile pour vous d'être en France le 7 octobre et pas en Israël?
C'est un jour difficile en général. C'est une année difficile, vous savez, et ce jour est particulièrement difficile. Si vous me demandiez ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, ce serait de rester au lit, de ne pas me lever et de ne pas sortir de chez moi. Mais nous avons une mission, et notre mission est de ramener les otages à la maison. Et si cela signifie que nous devons sortir du lit, prendre un avion et aller en France, alors nous sommes là. Si cela aide les otages, nous serons là.
Comment vont vos deux neveux qui ont été libérés dans la trêve en novembre, Sahar et Erez?
C'est un peu difficile. Sahar et Erez ne peuvent plus vivre. Ils ne peuvent pas être bien tant que leur père n'est pas là. À la fin du mois, il y a la bar mitzvah d'Erez. On se dirige vers une bar mitzvah sans offert et c'est très difficile et très triste. Mais nous restons forts.
Est-ce que la situation est différente depuis la guerre dans le Nord ou est-ce que c'est la même chose pour vous et les otages?
Pour nous, c'est la même chose. Peut-être même qu'en raison de la guerre dans le Nord, on parle moins des otages. Mais nous continuons à y travailler. Nous allons d'une interview à l'autre, d'un studio à l'autre, pour rappeler au monde qu'il reste encore 101 otages à Gaza. En tant que nation, et même pour le monde entier, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des gens dans ces conditions terribles sans que personne ne connaisse leur situation. Nous savons que le monde entier est très préoccupé par la situation humanitaire des habitants de Gaza. Et il se peut qu'il ait raison, mais je n'entends personne parler de la situation humanitaire des otages. Nous savons qu'Ofer a été blessé avant son enlèvement. Personne ne l'a vu, ni lui, ni les autres otages depuis, ni un médecin, ni la Croix-Rouge. Nous ne savons même pas s'ils sont vivants, s'ils vont bien ou non. Personne n'a d'informations. Nous avons besoin d'eux ici pour pouvoir nous occuper d'eux et guérir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons tous être aller mieux. Nous, Sahar, Erez, Gaïa et Rotem, les petits-enfants d'Ofer, Hadas et tous.
גם אנחנו, גם סער וארז, גם גיא ורותם, הילדים הגדולים של אופר, גם הדס, כולנו.
Est-ce que vous pensez que l'État fait assez pour vous, pour vos familles?
L'État n'est pas là depuis un an.
Ça fait un an. Ça fait un an qu'ils ne sont pas là.
Ça signifie qu'ils n'en font pas assez. Tout le monde n'en fait pas assez. L'État en Israël, le gouvernement en France, les États-Unis, le Royaume-Uni et même nous. Peut-être que tout ce que nous faisons, et nous pensons que nous faisons beaucoup, n'est peut-être juste pas suffisant.
Mais non, vous faites ce qu'il faut.
Si c'était suffisant, ils seraient ici. C'est tout.
C'est dur. Bon courage à tous. Merci à vous.
Et parce que lui a été marqué à vie par l'un des pires massacres de la décennie noire en Algérie, je cite, « Quand advint l'horreur du 7 octobre en Israël, je fus doublement choquée, doublement piégée, doublement scandalisée, doublement muet et doublement en colère jusqu'à perdre les mots. Je pense que tous ceux qui partagent la colère de Kamel Daoud et qui ont la lucidité de regarder la barbarie islamiste en face partagent aussi le constat glaçant que la fatwa contre Salman Rushdie, les massacres d'Ozar HaTorah, de la rédaction de Charlie Hebdo, de l'Hyper Kasher, l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard, le massacre des Yézidis, comme le pogrom du 7 octobre, ne sont pas des actes isolés. Ces actes ne sont pas portés par des groupes folkloriques et par... mais par des organisations islamistes qui, au-delà de leurs différences, ont en commun la haine des juifs, des apostats, des femmes, des homosexuels, l'aversion pour la démocratie et la liberté d'expression, et la conviction qu'il n'y a rien qui ferait plus plaisir à leur ami imaginaire que l'instauration d'un califat mondial. Ajoutons à ce socle commun un goût pour la barbarie et le sang, si possible filmé et diffusé en direct. C'est cette lucidité et cette colère que connaissent toutes les victimes des islamistes, à commencer par les musulmans n'ayant pas choisi de vivre sous le joug de leur terreur. Une lucidité et une colère qu'il est tellement difficile de partager avec ceux qui, en Occident, souhaitent l'ignorer ou avec ceux qui assimilent la barbarie islamiste à une forme de résistance. Ou encore, avec ceux qui, et on se demande bien pourquoi, refusent aux Juifs la possibilité d'être victimes de quoi que ce soit. Cette lucidité et cette colère, nous sommes quelques-uns à la ressentir à chaque attentat islamiste, lorsque, face au même compromis, au même déni et aux mêmes idiots utiles, nous avons le sentiment, comme le dit encore Kamel Daoud, d'être des revenants tapant derrière la vitre avec l'envie de hurler. Une solitude que connaissent bien les Juifs en France, conscients de la faible participation des non-Juifs dans les cortèges des marches qui suivent chaque attentat et chaque crime antisémite. Notable de la formidable mobilisation de la marche du 12 novembre dernier, le manque de solidarité et de soutien ces dernières années a fini par peser. Un sentiment de solitude qui n'a pas manqué pendant la marche du 9 octobre. Et pour employer un euphémisme, disons que le volume des soutiens de personnalités dans les jours qui ont suivi le 7 octobre n'a pas été de nature à troubler le chagrin et la peine. Depuis le 7 octobre, nous nous sommes farcis le vacarme des relativistes et des adeptes du 8 mai qui ne semblent pas avoir molli depuis Charlie Hebdo et Samuel Paty. Pour l'anecdote, dès le 7 octobre, à 14h27, Jérémy Corbyn appelait à un cessez-le-feu tout en réclamant, je cite, « la fin de l'occupation ». Et comme si cette faillite morale ne suffisait pas, aux voix des relativistes s'ajoute le fait que, contre toute attente, le 7 octobre a été également le coup d'envoi d'une explosion des actes antisémites en France et partout dans le monde. Depuis le 7 octobre, nous assistons à un combat idéologique sans précédent. Un combat pour imposer l'idée que ce pogrom ne serait qu'une réaction plus ou moins justifiée à la politique menée par Israël, ou pire, une réponse légitime à l'existence même d'Israël. Certains, n'hésitant pas non plus à expliquer que le 7 octobre, pourrait expliquer le 7 octobre par le nombre de victimes civiles des bombardements israéliens sur Gaza qui ont eu lieu après le 7 octobre. Comme si la critique d'Israël passait automatiquement par la volonté de nier le rôle délétère des organisations islamistes qui ont fait de Gaza le tremplin de leurs ambitions planétaires et dont l'élimination pure et simple des Juifs d'Israël ne serait qu'une étape. L'islam politique n'est pas nouveau. Ses objectifs sont connus et ses avancées visibles dans la plupart des pays arabes, au Maghreb, mais aussi en Europe. Pourtant, jusque-là, depuis l'Occident, le projet des barbus semblait farfelu. Ce qui a changé depuis le 7 octobre, ce qui est nouveau, c'est que nous savons maintenant qu'il existe suffisamment d'alliés objectifs de l'islamisme au sein du monde occidental pour qu'ils aient de vraies raisons d'y croire. En ce qui me concerne, depuis un an, ma seule raison d'espérer, c'est l'idée qu'il existe une majorité silencieuse dans notre pays et à travers le monde, et que cette majorité silencieuse finira par prendre conscience que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël nous concerne tous.